16 juillet 2013, je vais vous demander de vous présenter.
Alors, Frédéric Torchet, viticulteur à Villeneuve-la-Grande depuis 1985.
Vous êtes né où et quand?
Alors, le 19 décembre 1967, à Romilly-sur-Seine.
Où ça?
À Romilly-sur-Seine, à la maternité de Romilly.
Mais sinon, à ce moment-là, vos parents habitaient où?
Ah, alors mes parents étaient originaires du Plessis-Barbuise, une commune qui se trouve à côté de Villeneuve.
Et qu'est-ce qu'ils faisaient?
Alors, mon père était mineur. À l'origine, il travaillait dans les mines de terre glaise. Il a commencé dans les années 62 et il s'est lancé dans la vigne en 66, là où le Villeneuve a repassé en appellation Champagne. Il y avait des vignes avant qui n'étaient plus en appellation et il y a une partie sur le territoire de Dival qui a été reclassée en 66, voilà 65. Et puis mon père a acheté ses premières parcelles quand il travaillait encore à la mine et il a acheté ses premières parcelles en 65 et qu'il a planté en 66. Et il a continué de travailler à la mine jusque dans les années 76, 77, une bonne dizaine d'années encore.
Il a pu faire les deux.
Il a pu faire les deux parce que la mine, il commence à 4 heures du matin. Il faisait 4 heures du matin à 1 heure de l'après-midi à la mine. Et de 2 heures de l'après-midi à 7 heures le soir, il faisait la vigne. Voilà, parce que les premières années de plantation, il n'y avait pas de récolte. Donc il a fallu qu'il garde son métier. Il a gardé son métier de mineur encore une douzaine d'années, quoi. Il a fait les deux métiers en même temps, quoi.
Donc il était inscrit comme vigneron.
Ah, il était viticulteur, voilà, il cotisait à beaucoup de caisses de retraite, hein, parce qu'il avait déjà travaillé un peu avant comme charretier, il travaillait comme mineur, il travaillait à la mine, et enfin la mine, et puis à la vigne, quoi, aussi, quoi. Il cotisait à plusieurs endroits en même temps, ouais.
Comment il a appris la vigne?
Alors la vigne, il a appris sur le tas, il a été voir comment les vignerons de Beuton, à Beuton, il y avait déjà des vignes, sur les vignes, les communes d'à côté, dans la Marne. Et il a été voir un petit peu la taille, comment que ça se passait, comment que les personnes, il s'est renseigné un petit peu à droite à gauche pour faire ses premières plantations. Et par contre, il livrait, il y a une coopérative qui s'est montée, hein, il a été un des premiers aussi à adhérer à la coopérative de Beuton, Braneville. Et puis, du coup, ses raisins, il vendait les raisins à la coopérative, quoi. Voilà, il faisait que la partie vigne. J'aurais dû le couper. Oui. Oui. D'accord. Et eh bien Pierre-Henri, tiens, on devait passer, je suis tombé en panne avec ma voiture, on est arrivé chez toi, on est tombé en panne. Alors,
On en était, comment il a appris la.
le métier de la vigne, voilà, bah oui, il a été voir les vignerons sur les communes d'à côté. Et donc, par contre, pour la vinification, là, c'était un peu plus compliqué. Puis bon, il n'avait pas les outils pour, il n'avait pas les bâtiments. Donc, il livrait en coopérative. Il a livré la coopérative du Braneville à Beuton. Juste jusqu'à temps que moi je reprenne. Moi j'ai repris mes premières vignes en 85. Il m'a recédé une part de ses vignes en 1985. Moi avant, moi j'avais été allé au lycée viticole d'Avize. J'ai fait 5 ans d'études au lycée viticole. Et puis on a monté nous notre pressoir sur Villeneuve en 2001. Et on a fait notre première presse pour nous en tant que récoltant manipulant en 2002. Voilà ce qui nous a fait nos premières bouteilles en 2004, quoi.
Alors,
Voilà.
dans les années 60, la vigne, c'était pas quelque chose.
Alors, non, dans les années 60, mon père, c'était un des premiers à s'installer en tant que mineur, quoi, parce qu'à Villeneuve, ils avaient classé qu'une petite partie des vignes. Alors, non, c'était pas quelque chose encore de reconnu. On gagnait pas sa vie en travaillant dans les vignes, quoi. Alors, à l'époque, c'est pour ça il a trouvé assez facilement des terrains à vignes, parce que les gens s'en débarrassaient plutôt, hein. Les gens, quand ils avaient des terrains à vignes, ils étaient contents de trouver quelqu'un pour les vendre, parce que personne n'en voulait. Alors, mon père s'est lancé dans les vignes un petit peu au hasard, quoi. Il voulait soit travailler, soit être maçon pour pouvoir monter sa maison, ou alors, comme il a eu l'opportunité de faire les vignes, il s'est lancé dans les vignes. Voilà.
Donc à l'époque, oui, donc il a pu acheter facilement.
Alors, il a pu acheter très facilement. Oui, un hectare de vigne coûtait à peu près de 2 mois de salaire, d'un salaire de mineur, quoi. Bon, à savoir qu'un salaire de mineur aurait été en euros constants aujourd'hui de 2000 euros par mois, quoi. 1800, 2000 euros par mois. Un hectare de vigne coûtait 4000 euros, 4000 euros, quoi. Voilà, alors il a pu acheter des vignes, il a emprunté, hein, il a été voir les banques, il a fait le tour des banques, il a essayé d'en trouver une qui voulait bien y prêter. Il y en a une qui a bien. La banque où il était, elle ne prêtait pas pour faire des investissements comme ça, quoi. Mais il a trouvé une autre banque qui lui a prêté de l'argent. Et puis voilà, quoi, il a emprunté, et puis sans trop savoir où il allait, quoi. Et puis après, dans les années 60, il a fait ses premières vendanges en 69, 68, 69. Alors il y a eu des petites vendanges, il y a eu des. des années difficiles, hein. Il a eu des années très très difficiles. Et puis, puis après, bon, bah, ça a augmenté un petit peu. Dans les années 74, il y a eu une deuxième partie de Villeneuve de reclassée en 73. Alors, ils ont pu replanter à partir de 74. Et là, après, il a refait de la location. Parce qu'il avait encore des emprunts sur les premières vignes qu'il avait achetées. Donc, il a reloué des vignes en 74 sur le secteur de Villeneuve. Et puis, bon, après, ça s'est développé. Il y a eu quelques bonnes années. Ça a permis de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis voilà quoi. Après, il s'est agrandi jusqu'à 5 hectares de vignes quoi. Et puis, bah moi, j'ai commencé à reprendre l'exploitation oui, en 85. 85, il m'a reloué 50 hectares de vignes.
Alors, il a dû investir sur les parcelles, mais pour le matériel.
Voilà. Bah, le matériel, la vigne, l'avantage, si on veut de la vigne, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Hein. La vigne, quand vous commencez avec un sécateur, une paire de cisailles, une binette, vous avez tout le matériel du vigneron quoi. Quand vous n'avez pas une grande surface. Vous pouvez avec un sécateur, une binette, voilà, vous arrivez à, vous pouvez travailler la vigne. Après, parce que les enjambeurs, il a acheté son premier enjambeur qu'en 81. Alors voilà, jusque-là. Et puis bon, avant, on avait l'hélicoptère qui traitait les vignes pour faire les traitements phytosanitaires. Alors c'était fait par hélicoptère, par voie aérienne. Maintenant, ce qui est interdit, mais ça lui a permis. Et puis bon, il avait un petit vermorel à dos pour traiter. Voilà, on n'avait pas besoin d'un gros investissement en matériel. Le principal, c'était la vigne. La vigne, les plants, les piquets, c'était ça quoi. Et il a pu travailler sans investir dans du matériel, parce qu'il était en coopérative. Du coup, tout le matériel de vinification, il n'en avait pas besoin. Il avait besoin que de son sécateur. Et puis voilà quoi. C'est un métier, si on veut, quand on débute, le plus gros, c'est toujours avoir, encore aujourd'hui, c'est les terres. Hein. C'est les terres, c'est le plus gros morceau. Hein. Mais on peut travailler jusqu'à 1,5 hectare, 2 hectares de vigne sans matériel, quoi. Avec, bon, après, quand on s'étend, c'est sûr qu'il faut un peu, là, il faut des tracteurs enjambeurs, tout ça. Là, ça revient un peu plus cher, mais on peut travailler 1,5 hectare, 2 hectares sans matériel. Ben,
Coopérative ou pas?
à l'époque, c'était beaucoup. C'est la coopérative de Beuthon s'est installée en 60, dans les années 60. Et du coup, il y a beaucoup de viticulteurs de Villeneuve qui ont été automatiquement à la coopérative de Beuthon. Les négociants, il ne devait pas y avoir trop de négociants à l'époque qui tournaient encore. Et du coup, ils vendaient leurs raisins à la coopérative. Bon, la coopérative pressait, revendait aux maisons de négoce après. Mais ils avaient monté leur coopérative entre quelques vignerons de Beuthon puis de Villeneuve s'ils ont adhéré après, quoi. Voilà.
Et il a arrêté à un moment donné
La mine, alors la mine, il a arrêté dans les années 77 ou 78, hein, je sais plus. Dans les années 77 ou 78, de toute façon, il est tombé malade. Il était malade du cœur, quoi. Il avait les poumons aussi de beaucoup esquinter avec la mine. Hein, avec les années de mine, il a fait même plus que ça parce qu'il a dû faire plus de 15 ans. Il a dû faire 16 ou 17 ans de mine. Alors il a dû y rentrer en 61, ouais, 71, ouais, il a dû faire en 76, 77 par là. Et puis bon bah dans les années un peu avant les années 80, il est tombé malade du cœur, il avait les poumons de voilés aussi, il avait et puis du coup il a arrêté de travailler à la mine à ce moment-là. Et puis en plus il avait assez de vignes pour après ne plus vivre que de la vigne quoi. C'est ce qu'il voulait quoi, c'est ce qu'il souhaitait quoi.
S'il avait combien d'hectares à ce moment-là?
Alors ben 4 hectares et demi quoi. Dans les années 80, ouais pas tout à fait 4 hectares. Il doit avoir à peu près 4 hectares, parce qu'il en a replanté après en 85, 86. Il avait à peu près 3 hectares et demi, quoi, dans les années. Quand il a arrêté la mine, il avait à peu près 3 hectares et demi de vignes.
Et il a commencé par planter quoi alors?
Alors, beaucoup. Ben, au début, il ne savait pas trop, c'est pareil. Hein, il était voir un peu les vignerons à droite, à gauche, sur Beuthon. Alors, ils ont planté un peu autant, à peu près, pour 50% Chardonnay, 50% Pinot Noir. Hein. On était sur les deux cépages, il n'y avait pas du tout de Pinot Meunier, nous, sur le secteur. Et puis après, bon, on s'est rendu compte un petit peu tard que Vinaux, on était plutôt un terroir à Chardonnay. Hein. Alors, bon, on avait maintenant, nous, petit à petit, les vignes de Chardonnay qu'on arrache, on les replante en Chardonnay. Allez, enfin, les vignes de Pinot Noir, on les replante en Chardonnay. Mais à l'époque, ils plantaient un petit peu les deux cépages. Hein. Voire des vignes, ils coupaient les vignes en deux. Souvent, ils en plantaient la moitié en noir, la moitié en blanc, quoi. Et puis bon, le noir, l'avantage des pinots noirs, c'est que les premières années, ça donne plus que des chardonnays. Ils faisaient des grosses vendanges dans les noirs. Et bon, comme ils avaient besoin de raisins, plus ils avaient de raisins, plus ils étaient payés, quoi. Alors ça fait que les premières années, bon, bah, ils avaient tous plus tendance à planter du pinot noir, hein, qui donnait un peu plus. Mais bon, bah, ça, c'était un petit peu la loterie, parce que bon, ils savaient pas trop les cépages, quoi. À des friches. Hein. Alors mon père, bah, les premières vignes, c'est l'avantage qu'on a eu, c'est que quand ils ont classé la première partie en 65 sur Dival, ils ont classé toutes des parcelles, des petites parcelles, des très petites parcelles qui étaient en friche. Hein. Alors donc il y a déjà des vignerons à l'époque d'Épernay qui sont venus voir, mais ça les intéressait pas, c'était trop morcelé. et puis des terres en friche, trop de travail à faire. Alors du coup, les vignerons qui étaient déjà installés depuis quelques années, quand ils ont vu tous les petits bouts de champs que c'était, ça les a pas intéressés, quoi. Alors c'est comme ça que mon père a pu acheter. Mon père a acheté ses premières parcelles, il achetait 100 mètres carrés, 200 mètres carrés, quoi, un ar, deux ars. Il a des parcelles après qu'il a réussi à reconstituer, mais il y avait 40 parcelles. Dans aujourd'hui, ce qui fait une seule parcelle ou qui fait 50, 60 ars, il y en avait 40, quoi. Il y avait 40 parcelles avec des fois 15 propriétaires différents, quoi. Alors il a réussi à acheter tous des petits bouts, c'est un peu comme un Pulse, hein. Alors ce qu'il avait toujours un peu peur, c'est qu'il y en ait un qui achète une parcelle dans le milieu de 300 ou 400 mètres carrés, 3-4 ars, et puis il dit là, ça a toujours été un peu embêtant pour leur travailler après, quoi. Mais on vu qu'à l'époque, personne ne voulait des terres à vignes, les gens venaient le voir, venaient à toquer à la porte pour y vendre. Quand ils voyaient que lui, il achetait les bouts de friche, ils venaient le voir pour qu'il aurait eu de l'argent, moi, à l'époque. C'est vrai qu'il aurait pu en acheter beaucoup plus, mais bon, il achetait au fur et à mesure de ce qu'il pouvait rembourser. Et voilà, quoi. Et ça a été bien fait au niveau de l'appellation. Enfin, bien fait, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais bien fait, ça a permis à des gens qui n'étaient même pas du milieu de pouvoir se lancer dans la vigne. Parce que mon père n'était pas du tout d'un milieu viticole, quoi. Voilà, son père était meunier, là. Voilà, il travaillait dans les moulins sur l'Anox, sur des moulins un peu après Villeneuve, là. Voilà. Alors, on a passé de meunier à mineur et à viticulteur. Voilà. Ça a changé pas mal en plusieurs années. Oui. Si c'est ouvert. Voilà. Vous voulez de l'eau? Ouais, vous pouvez prendre là-bas. Hein.
Mais comme terre, c'était en friche, mais c'est pas trop difficile
À cultiver.
à ranger.
Ah bah si, les premières années, si, ça a été très dur. Ça a été très dur. Surtout qu'il n'avait pas de moyens, de gros moyens pour. Défriché, quoi. Il a défriché, il a commencé à défricher avec son motoculteur à la pioche et puis les petites parcelles. Il plantait des petites parcelles. Alors, ça a été, si les premières années c'était très dur. Après, il avait des amis agriculteurs sur la commune qui sont venus un peu l'aider avec des tracteurs. Alors, il leur redonnait en coup de main au moment de la moisson et tout ça. Mais vu qu'il avait déjà son métier de mine, la vigne, il n'avait pas trop le temps de redonner des coups de main. Alors, bon, c'était après ça. C'était compliqué. Alors, il a défriché pas mal tout seul au départ. Et puis après, bon, quand il a commencé à faire ses premières vendanges, là, il faisait appel à des entrepreneurs qui pouvaient venir avec du matériel un peu plus gros. Mais bon, c'était un peu plus gros que le motoculteur. C'était pas les grues qu'on a aujourd'hui encore. Et
Comme terrain, c'était quoi?
alors, des terrains, ben ici, nous, sur Villeneuve, sur la partie de Villeneuve, on est plutôt sur des calcaires. Sur Dival, on serait plutôt sur des argileux calcaires, avec par endroits un peu sablonneux. Il y a plusieurs types de terrains dans une même parcelle. Vous pouvez vous retrouver avec trois types de terrains. Parce que, à savoir que sur Villeneuve, c'est pas mal argileux. Il y a encore les carrières. Mon père était mineur dans les mines d'argile. Et alors, on retrouve même des fois dans les vignes des bandes d'argile. Des bandes. Alors bon, pour la vigne, c'est pas sensationnel. Quand on peut maintenant, quand on arrache nous les vignes, quand on retombe sur des bandes d'argile comme ça, on les retire pour remettre de la craie souvent ou de la terre, quoi. Voilà, il y avait plusieurs. C'est de la terre, c'est de la bonne terre, c'est de la terre assez forte, hein, sur Villeneuve. Et après enfin sur Dival, sur la partie de Dival, partie de Villeneuve, on est plus sur de la craie, quoi, hein, plutôt calcaire. Voilà, non, calcaire friable. Hein. Calcaire friable, c'est très bon pour la vigne, c'est des sols très drainants. Ça permet à la vigne d'avoir des racines qui descendent très profond et puis d'aller rechercher en période de grosse sécheresse, d'aller rechercher l'humidité, quoi, l'hygrométrie, quoi.
La Côte des Bas, les cailloux qui montent tout le temps.
Alors dans la Côte des Bars, on est plus sur du calcaire mais plus dur. Hein. Voilà, ouais, parce qu'on a quelques vignes aussi sur la Côte des Bars, hein, sur les Rissés et puis Essois aussi. Maintenant, parce que moi, quand j'ai voulu m'agrandir un petit peu, après sur Villeneuve, bon bah la période où les gens venaient taper à la porte pour nous vendre les vignes, ça n'a pas duré trop longtemps. Hein. Dès que ça s'est développé un petit peu, à partir des années 70, ça a été fini. Hein. 74, quand Villeneuve a été reclassé, là, on a des vignerons de la Marne, de l'Aube, même des propriétaires assez importants qui sont venus. Là, c'était des belles parcelles qui avaient été reclassées et qui sont venus pour acheter des terres là. Après, les terres, le prix des terres a vite monté, a très vite monté. Hein. Et
Ça a été des années, ça.
que ça a commencé dans les années 74. Par rapport, si vous voulez, au niveau des prix, on était à 3-4 000 euros l'hectare dans les années 65, 60, 65. Ça a passé à 30 000 dans les années 70, 70, 75, je dirais. Puis après, même ça a remonté. Après, c'est passé à 30 000 euros, après à 100 000, Et puis après, ça n'a pas cessé d'augmenter. Et moi, je me suis installé en 85, mais bon, j'avais des vignes en location de mon père et je voulais acheter des vignes. Et en 91, sur le secteur, nous, bon, il n'y avait déjà plus rien sur Vinaux, tout avait été planté. Il y a un peu plus de 100 hectares de vignes, mais bon, tout était pris. Et du coup, c'est là qu'on s'est agrandi un peu sur la commune des Riceys. Voilà, on a trouvé en 91, on a racheté l'équivalent à peu près d'un hectare de vignes sur la commune des Riceys.
La rue se situe où exactement?
Alors, sur la route de Bragelonne-Beauvoir, Châne, sur la route de Châne, si vous connaissez, voilà. Voilà, on est là-bas. Et puis en 2002, on en a racheté aussi un hectare sur la commune d'Essois. Voilà, là, en direction de Verpillière-sur-Ours. Voilà, ça fait maintenant. En plus, nous qui manipulons, ça nous permet d'avoir justement des cépages qui sont bien appropriés. Parce que là-bas, on est plus sur des cépages pinot noir. Hein, sur les Riceys et soit la Côte des Bars, c'est principalement pinot noir. Les pinots noirs sont de meilleure qualité là-bas que sur Vinlox. Alors que sur Vinlox, on est plus sur le chardonnay. Et nous, pour faire nos champagnes, pour faire nos assemblages, ça nous permet justement de ramener les raisins de là-bas et de faire des assemblages de bonne qualité, quoi.
Parce qu'avant vous achetiez ou vous faisiez avec ce que vous aviez?
Alors avant, ben, de toute façon, nous on a déjà acheté en 94 hein, sur les Riceys, mais là on vendait encore à la coopérative. Ça fait qu'en 2002, quand on a commencé à commercer, enfin en 2002, quand on a commencé à presser, on avait déjà nos vignes des Riceys, hein, qui étaient déjà, c'était une vigne en plus qui était déjà plantée, qui avait déjà 15 ans. Alors quand on a commencé à manipuler, on avait déjà une partie des vignes de l'Aube, quoi. 2002, ça, c'était déjà, bah, c'est de plus en plus. Ouais, maintenant ça monte toujours. Mais bon, comme on a les enfants qui continuent derrière, maintenant, les vignes, on achète pour plusieurs générations. Hein. Maintenant, les vignes, on n'achète pas les vignes pour faire rentabiliser. Hein. Moi, bon, j'ai 45 ans aujourd'hui, j'achète encore des vignes. Il faudrait que je vive jusqu'à 150 ans pour les rentabiliser. J'espère y arriver, mais bon, je me fais pas trop d'illusions.
Pourquoi faut plus de 20 ans pour
Oh non, 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 aujourd'hui, on est à 80, plus de 80 ans. D'amortissement sur si vous achetez un hectare de vigne en plein rapport. Après, bon, il se pratique plusieurs choses. Mais si vous achetez un hectare libre en plein rapport, aujourd'hui, on est à 80 vendanges, quoi. On est à 80, alors, bon, 80 vendanges, ou alors, hein, voilà. On achète pour les enfants, quoi. Hein, c'est nos parents ont acheté pour nous, si on veut. Bon, nous, avec les hectares qu'on a de nos parents, ça nous permet de réinvestir pour acheter d'autres hectares, quoi. Mais si on prend en raisonnement pur, il faut 80 vendanges aujourd'hui pour amortir un hectare de vigne, quoi. Si vous achetez un hectare de vigne libre. Bon, après, nous, on en achète toujours, mais des fois, des propriétaires hein, qui vendent. Bon, là, souvent, on est déjà souvent propriétaire des plants. On a encore 10, 15, 20 ans de bail sur la vigne. Ça permet de réduire le coût, quoi. Mais si vous achetez des vignes en pleine propriété qui sont en plein rapport, là, vous les payez plein pot, quoi. Voilà.
Et vous n'avez pas essayé de voir, je sais pas, du côté de Montgueux, là, il paraît
Ah bon, Montgueux, oui, bah pour l'instant, oui, bah il y a déjà des parcelles hein, qui se vendent. Hein. Oui, si, on a déjà fait le tour, on connaît les communes où les parcelles vont être classées. Mais nous, bon, on n'est pas une assez grosse structure, on n'a pas assez de fonds personnels pour investir. Il faut déjà investir de l'argent. C'est des vignes pour l'instant qui sont encore pas reclassées, hein, qui seront reclassées que d'ici peut-être avant 10 ans. Mais après, bon, les droits de plantation ne seront pas redonnés tous automatiquement non plus. Alors, c'est des vignes qu'on achèterait aujourd'hui en espérant qu'ils soient reclassés et puis ne sachant pas quand les planter. Alors, ça fait beaucoup d'argent à investir pour avant de là de. Alors, on attend, on préfère attendre un petit peu et le jour que ça sera reclassé, si surtout pour mon fils quoi. Moi, dans 10 ans, ça sera. Mais pour mon fils, si je pense qu'on y tournera par là pour. En plus, Montgueux, bon, ça fait un peu moins loin que les Riceys, on est entre les deux. C'est des très bons secteurs aussi. Hein. Montgueux, tous les secteurs qui vont être classés, c'est des endroits où il y a déjà eu de la vigne auparavant et qui vont être reclassés, qui vont être mis, qui ont été retirés avant 27, hein, et puis avant 1927, et puis qui vont être remis, reclassés là, quoi. Mais si, y a des. Si, on y pense, mais bon, il y a déjà beaucoup de maisons de négoce qui sont déjà sur le coup et qui achètent déjà beaucoup de terres là-bas. Voilà.
Mais Rissé, soit c'est quand même assez loin. Vous avez quand même du boulot ici, non?
Alors 110 km, ouais, de la cave d'ici à nos vignes là-bas, sur les Riceys ou sur Essois, il y a 110 km pareil. Alors on fait tout le travail de la vigne, parce que moi j'aime bien, ça me permet d'aller voir la vigne, voir l'évolution toute l'année, et on fait faire en prestation tout ce qui est travail de tracteur enjambeur, bah les traitements, le broyage, tout ce qui est en tracteur, on ne monte pas jusqu'en tracteur là-bas, quoi. On fait la taille, on fait tout la taille, tout ce qui est le travail manuel. Taille, attachage, vendange, voilà, les vendanges, on va le faire. On emmène notre équipe de vendangeurs, on part avec 25 vendangeurs. Mais ils sont habitués, hein, lui ça fait 20 ans qu'on le fait, hein, puis bon, on a toujours à peu près les mêmes équipes de vendangeurs, et on part le matin ben, un peu plus tôt, quoi, hein, quand on part là-bas, on part à 6h du matin, quoi, et puis on revient un peu plus tard, et puis voilà, non, mais si, ça se fait, c'est un peu une organisation, mais ça se fait. Hein.
Alors ça vous fait deux périodes de vendange.
Souvent, oui, quand on termine, nous ici, on débute là-bas, ça débute là-bas, hein, parce qu'il y a un décalage. Alors, on arrive en général jusqu'ici, ça a toujours collé à peu près. Bon, des fois, il peut y avoir un ou deux jours de trou, mais quand on finit ici, là-bas, ça débute. Hein. Voilà. Mais non, c'est une organisation, c'est sûr que ce serait beaucoup plus simple d'avoir toute l'exploitation autour des caves. Mais il y a une période où on a voulu s'agrandir. Bon, on n'avait pas. Et puis quand on a acheté en 91 au Rissé, c'était beaucoup moins élevé le prix qu'aujourd'hui, quoi. Le
91 ou 94?
94, 94 qu'on a acheté au Rissé, voilà. Ouais. 80, ouais.
Et vous
94.
avez acheté à qui? Parce qu'en 94, en 2002, à qui on achète?
Ben à des personnes pour différentes raisons. Hein. Vous avez des personnes. Nous, c'était une personne qui avait besoin d'argent. C'était un gros viticulteur qui avait investi beaucoup. Il a peut-être pas, il a sûrement pas fait une mauvaise affaire, hein, mais il avait investi. Il avait 25 hectares de vignes. Et moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que moi, j'arrivais avec mes 3 hectares de vignes. À l'époque, j'avais 3 hectares et à racheter des vignes à une personne qui en avait, ouais, 20. Oh, il avait, il en avait dans la Marne. Il en avait beaucoup dans la Marne. Il en avait ici. Il en avait. Et c'est une personne qui a été bloquée, arrive un moment qui a été bloquée au niveau finance, et il a été obligé de vendre un hectare de vigne. Et puis en 2002, ben, c'est une personne qui vendait pour. Il voulait s'acheter un bateau. Alors voilà, il avait 15 hectares de vigne aussi déjà, mais bon, il en avait largement assez. Ses enfants n'étaient encore pas remis sur la vigne, il ne pensait pas que ses enfants allaient revenir sur la vigne. Alors il en a vendu, il nous a vendu un hectare de terre. Hein. Il avait encore 3 hectares de terre à planter, donc il a vendu un hectare de terre. Voilà, les gens vendent pour différentes raisons. Hein. Aujourd'hui, c'est les successions, hein, beaucoup. Hein, quand vous avez des exploitations qui s'éclatent, où il y a plusieurs enfants, tout le monde veut sa part. Alors, il y en a un qui continue à faire les vignes, mais souvent, il ne peut pas racheter les parts des frères et sœurs. Alors, voilà, quoi, il y a des vignes, souvent pour des successions aujourd'hui. Hein. Voilà. Bah, c'est des investissements assez lourds. Hein. Si vous êtes 3-4 enfants, moi, mon père, bon, c'est un petit peu, ça a été bien pour moi, mais c'est vrai, il n'a pas voulu diviser son exploitation parce qu'il a eu du mal à monter son exploitation. Moi, on est 4, hein, on est 4 frères et sœurs. Mais mon père voulait qu'il n'y ait qu'une personne pour que l'exploitation, justement, puisse continuer à s'étendre. Alors, il a fait tout pour que je sois tout seul à reprendre, quoi. Il m'a fait des baux à long terme. Il a divisé ses vignes en quatre, parce qu'on était quatre quand même. Mais il m'avait fait des baux à long terme dessus, avec préférence, si mes frères et sœurs veulent vendre, que ce soit moi qui sois évidemment prioritaire pour acheter. Alors, c'est ce qui s'est passé avec mes sœurs. Mes sœurs ont vendu leur part, donc j'ai racheté les parts. Mais mon père a bien fait pour. Parce qu'il ne voulait pas que d'ici 4 hectares, il avait 4 hectares de vignes quand il a arrêté 4 hectares et demi, mais avec 2 hectares et demi, dont 2 hectares et demi en location, si il redivisait ça en 4, c'était fini. On retombait à zéro, quoi. On n'aurait jamais pu monter de cave, on n'aurait pas pu réinvestir dans des vignes. Voilà qu'aujourd'hui, une exploitation, pour qu'elle soit valable, il faut qu'on ait toujours un peu plus d'hectares que ce qu'il nous faut pour vivre, quoi, pour pouvoir toujours faire partir une partie dans l'investissement, quoi. Voilà, c'est bon, on le dit pas, faut pas le dire à tous les autres viticulteurs, mais bon, nous on raisonne un peu comme ça, quoi. Mais bon, il y en a, ouais, mais bon, il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, c'est pour ça des fois les gens disent ah, ben, ils en ont jamais assez, ils en veulent toujours un peu plus. Mais bon, le problème c'est que si on s'agrandit pas, ben, on diminue. Hein. De toute façon, on a toujours les charges qui montent, qui sont de plus en plus élevées, tout le prix de la vie monte. Nous, notre investissement, enfin. Ce qu'on fait, c'est pour s'agrandir, il faut au moins suivre le coût de la vie, quoi. Et puis l'hectare de vigne, les fermes agricoles, ça fait la même chose. Hein. Il y a 50 ans, une ferme de 50 hectares, c'était une grosse ferme, 50 hectares. Bon, aujourd'hui, 50 hectares, c'est fini. Aujourd'hui, une grosse ferme, c'est 500 hectares, quoi. En 50 ans de temps, on est passé de 50 à 500 hectares. Et les vignes, c'est pareil. Hein. Il y a 30 ans, avec 1 hectare et demi, 2 hectares, vous viviez bien. 2 hectares, 2 hectares et demi, il y a 30 ans, vous pouviez en vivre, quoi. Bon, aujourd'hui, si vous voulez investir, si vous voulez un tracteur, si vous voulez. Racheter un petit bout de vigne, bah 2 hectares et demi, c'est un peu juste, quoi. Vous vivez bien, mais vous n'allez jamais pouvoir vous agrandir. Et au bout de 30 ans, bah vous finirez par être mangé par un autre, quoi.
Mais avec la flambée des prix de la parcelle,
Oui.
est-ce que vous avez commencé à réfléchir à la succession?
Ah bah oui, bah la succession, oui, bah nous, là, cette année, on vient de louer une parcelle justement de vigne à notre fils qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Le jour de ses. Enfin, il a eu 18 ans au mois de mars. Au mois de juin, on était au notaire pour déjà lui retransmettre une partie des vignes. Voilà, il faut prendre la succession, il faut y penser très très tôt aujourd'hui, très tôt à l'avance, quoi. Alors pareil, pour l'instant, nous, on a trois enfants. Bon, on part un peu dans le même principe que mon père. On voudrait que l'exploitation continue à se développer. Alors pour l'instant, bon, c'est le fils, il poursuit ses études, hein, il est au lycée viticole où j'étais. Il vient d'avoir son bac cette année. Hein. Et puis, bon, on va voir, là, il refait un BTS. Hein. Et puis, ce sera lui, il y a 99% de chances que c'est lui qui reprenne l'exploitation. Mais il a des sœurs qui sont aussi un peu dans le milieu déjà et qui seraient prêtes aussi à revenir sur l'exploitation, quoi. Alors, si...
Vous avez réfléchi, soit monter une société.
Ouais, mais alors financièrement, la société c'est le mieux pour retransmettre. Mais moi, j'aime pas, je pars pas dans ce principe-là. Je préfère recréer une exploitation à mon fils indépendante de la nôtre. Faire chacun son exploitation et travailler parce que mon fils a pas tout à fait les mêmes idées que moi pour travailler. Moi, j'avais pas les mêmes idées que mon père. Et puis pour le laisser faire, et bah, dans ses vignes, ce qu'il veut, quoi. Hein, là. Et mon père avait fait comme ça. Moi, en 85, j'ai eu 18 ans, moi, le 19 décembre 85. Mon père m'a reloué 50 hectares de vignes. On a passé au notaire le 31 décembre 85. J'avais 18 ans. Et là, mon père m'avait mis 50 hectares de vignes. Et puis, comme ça, il m'a dit, tu débrouilles avec tes 50 hectares de vignes. C'est moi qui allais acheter mes engrais, qui allais acheter mon désherbant, mes produits. Je faisais le travail. Et il m'a laissé entièrement me débrouiller. Et j'ai trouvé que c'était une bonne solution. Moi, ça m'a permis, j'ai été travailler ailleurs parce que ça, j'avais pas assez pour vivre que de mes 50 hectares de vigne. Mais j'ai été travailler chez d'autres, chez des agriculteurs, viticulteurs. J'ai été faire un peu de vigne ailleurs. Ça m'a permis de voir comment ça se passait aussi. Et puis voilà quoi. Puis après, moi, je me suis agrandi. Mon père a vu que je me débrouillais pas trop mal avec mes 50 hectares. Donc après, ben, il m'en a reloué un peu plus. Et puis voilà quoi. Puis il m'a retransmis son exploitation comme ça. Tous les 3-4 ans, il me recédait une partie de ses vignes, quoi. Alors on avait des baux à d'autres personnes, mais bon, on est bien avec tous nos propriétaires. On a aussi une dizaine de propriétaires. Hein. Et allez, les propriétaires, ben, m'ont refait les baux à mon nom. Ça s'est bien passé avec tous les propriétaires, il n'y a pas eu de souci. Et puis jusque après, mes parents ont arrêté complètement dans les années 80. 14, 94, 95. À partir de 94, 95, parce que mon père a eu 60 ans en 95, et il a arrêté en 95, il a arrêté complètement. Bon, il avait déjà pas mal de problèmes de santé, et il a arrêté complètement, il m'a recédé tous les terres, les vignes qui lui restaient, et puis voilà quoi.
Et lui, il n'avait pas l'ambition de faire son champagne.
Ben si, mais alors bon, lui, il avait déjà beaucoup emprunté pour acheter les premières vignes, et il s'est lancé dans les vignes, il avait 35 ans déjà. Alors, il a arrêté de travailler les vignes, il approchait les 50 ans. À 50 ans, ça faisait un petit peu tard, repartir dans les investissements. Il en avait déjà eu beaucoup d'investissements, il avait déjà eu son quota de. Parce que bon, on dit, mais des investissements, des emprunts, c'est lourd à gérer, c'est quelque chose qu'on a toujours sur les épaules, qu'il faut toujours, on se demande toujours quand il y a une mauvaise année, il faut pas qu'il y ait deux, trois mauvaises années de suite, parce que comment on va faire pour rembourser et tout. Alors, il avait eu son lot d'emprunts, et non, dans les années 50, il s'est acheté une petite maison en Bretagne, et quand il avait après quelques temps de repos, il préférait partir une semaine à la pêche. Et puis bon, la vinification, pour dire, ça n'a jamais été trop son truc. Hein, la vinification, lui, moi, après, ça m'a plu parce que j'étais à l'école de viticulture. Là, j'ai commencé un peu à travailler dans les caves sur le vin. Et puis, ça m'a, enfin, je me suis intéressé, je m'y suis intéressé. Et puis voilà quoi. Mais mon père, non, il avait pas, il est arrivé dans les vignes un peu tard. Et puis bon, la vinification, c'était trop d'investissement encore et tout quoi. Alors, il fallait refaire tout parce qu'on avait, quand on a commencé, on n'avait même pas un transpalette, quoi. Tout était à la coopérative. Hein. Coopérative, vous ameniez vos raisins et puis voilà, quoi. Alors, nous, il a fallu acheter le terrain, refaire les premiers bâtiments, les caves, la cuverie, tout. Après, là, on a refait un bâtiment de stockage il y a 3 ans. Bah, c'est des investissements toujours, quoi.
Parce que votre père, il était.
Au Plessis-Barbuise.
Lui, il était installé au
Voilà,
Plessis-Barbuise.
il habitait au Plessis-Barbuise et
Il avait une
nous.
cave.
Non, 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 il n'avait pas de cave. Non, non, il n'avait même pas de cave. Il a fait bâtir une petite maison neuve. Et puis, non, non, il n'avait pas de cave, rien du tout. Il livrait la totalité de sa récolte à la coopérative. Voilà.
Comment vous avez commencé, vous? Parce qu'il faut bien commencer, il faut bien tester. Donc
Ah.
vous aviez des idées sur la
Alors.
vinification, vous
Ah
aviez.
ben oui, moi enfin, j'avais mes idées. Moi, du jour où il m'a reloué des vignes, déjà en 85, moi, je voulais vinifier. Mais bon, j'avais pas assez de vignes, alors c'est pour ça que j'allais travailler ailleurs. Et puis et après, en 94, ben, j'ai voulu acheter des vignes parce que j'avais toujours, moi, dans l'idée de vinifier. Mais comme j'avais que des vignes en location, je dis, ben, si je me mets à vinifier puis que tous mes propriétaires vendent ou que ça se passe pas bien avec mes frères et sœurs, si je monte un pressoir et puis que j'ai plus de vignes, ça va être compliqué. Alors j'ai dit en 94, je vais plutôt commencer déjà par acheter des vignes, me faire un petit volume de vignes, quoi, de surface de vignes. Pour pouvoir après monter une cave, et puis au moins toujours, si j'ai plus de vignes à de propriétaires, j'aurai au moins mes vignes à moi en propriété. Alors, 94, on a racheté un peu de vignes, on a racheté en 95 des petites parcelles sur Villeneuve, on rachetait quand on trouvait des petits trucs. Et puis en 2001, bon, bah là, on avait mis un petit peu d'argent de côté. En 2000, on a dit à la coopérative, bon, qu'on quittait la coopérative. Et puis en 2001, bon, on a commencé les premiers travaux, on a fait la cave. Bon, j'avais déjà fait mes plans, moi, avec la partie où je voulais la cuverie, la partie du pressoir. Je savais exactement ce que je voulais, quoi. Alors là, bon, on a fait faire les travaux, ça a été. Et puis après, bon, on a fait la première année, on a fait 5 000 bouteilles. On a gardé l'équivalent de 5 000 bouteilles. On se demandait comment on allait les vendre, parce qu'on disait 5 000 bouteilles, ben, ça fait beaucoup, quoi. Et puis, bah, tout compte fait, en 8 mois de temps, tout a été vendu. Et puis, on en a refait 7 000-8 000 la deuxième année. Et puis aujourd'hui, on est à 25 000-30 000. Voilà, quoi, depuis 2004 qu'on a commencé à commercialiser, quoi. Mais et puis après, ben, en 2001, le premier bâtiment qu'on a fait, il est vite devenu trop petit, quoi. Alors c'est pour ça qu'on a refait le deuxième. Mais même le deuxième bâtiment était déjà prévu. Quand j'ai acheté le terrain, je voulais monter mon premier bâtiment, mais je disais de toute façon, on vinifiera un peu plus. Et je voulais déjà un terrain assez grand pour pouvoir remonter un deuxième bâtiment. Et on a remonté le deuxième bâtiment là, en 2010. On s'était donné 10 ans, quoi. On avait dit 2001, 2011, mais bon, on a anticipé un peu. On a remonté là où on a toute une partie de stockage bouteille.
Suffisamment haut pour faire une cave.
Voilà. On a fait. Vous avez vu, hein, vous avez fait le
Non,
tour,
pas
non?
encore.
Voilà, ouais, non, on a fait avec une place suffisante pour stocker l'équivalent de 250 000 bouteilles. Si on gardait, parce qu'aujourd'hui on a une superficie de 7 hectares, et si on gardait la totalité de nos bouteilles, aujourd'hui ça ferait environ 70 000 bouteilles hein, par an. Fois un roulement de 3 ans, ça ferait à peu près 210 000, 210, 250 000 bouteilles. Alors voilà, on a refait tout un stockage pour l'équivalent, parce qu'aujourd'hui on vend encore la moitié de notre production, un peu plus, aux maisons de négoce, à des maisons de négoce de la Marne. On vinifie sous notre nom que la moitié de notre production, quoi. Donc voilà. Et petit à petit, bon bah tous les ans, suivant les années, on se désengage ou on se réengage, suivant comment on a besoin de finances.
Et au
Voilà.
début, vous avez quand même un petit peu vinifié sans de manière non officielle pour tester ou pas?
Oh ben non, même pas trop, parce qu'en Champagne, en livrant à la coopérative, c'était pas là, une fois que vous avez livré vos raisins à la coopérative, vous pouvez pas, c'est pas facile de reprendre du jus et puis tout ça. Nous, à la coopérative, vous amenez vos raisins, c'est pesé, et puis bon bah après ça part. Alors au début, non, hein, on a commencé la première année. Bon, on est entouré par un œnologue. Hein, on travaille avec un laboratoire à Épernay. Il y a trois grands laboratoires qui tournent en Champagne. On travaillait avec un laboratoire à Épernay. On a un œnologue qui venait à la première vendange, bah, qui était là pratiquement tous les jours. Hein. Parce que c'est vrai que moi, entre-temps, j'avais perdu un peu. J'avais travaillé un peu dans les caves jusqu'à la fin de l'école en 86. Mais après, de 86 à 2001, il y a eu un trou où je ne travaillais plus du tout la cave. Alors donc, la première année, on était bien entouré par un œnologue qui nous suit toujours, quoi. Et puis voilà, non, ça s'est assez bien passé. Hein. Si on suit bien toutes les étapes à faire au niveau de la vinification et tout, il n'y a pas de. Puis aujourd'hui, bon, on a du matériel en cave qui nous permet de travailler beaucoup mieux qu'il y a 25 ou 30 ans, quoi. On est en cuverie thermorégulée, on fait au niveau des levures, de la vinification, tout ça, ça se passe assez bien, quoi. Si on suit, il n'y a pas de problème. Et puis surtout qu'ici, sur Vinaux, c'est vrai qu'on a des chardonnays qui sont de très belle qualité, souvent toujours à la vendange. Et moi, ce qui me faisait enfin un peu mal au cœur, c'était de livrer mes raisins à la coopérative, alors que des fois, bon, vous voyez, on avait des superbes raisins. Je me disais, avec ça, on ferait du champagne. Et puis, c'est vrai qu'on fait, sur Villeneuve, on a de quoi faire au niveau des chardonnays, très belles choses, quoi.
Et votre pressoir, il vous sert qu'à vous ou...
Alors, non, on presse aussi, on fait un petit peu de prestation pour d'autres personnes. Voilà, on presse une douzaine d'hectares, quoi, pour l'instant. On presse, non, parce que la vendange, bah, c'est vrai que le pressoir, c'est un outil qui dure que, qui, on s'en sert que 10 jours dans l'année, quoi. Alors, il y a d'autres viticulteurs qui j'avais vu, qui me disaient, oh, bah oui, pourquoi pas. Alors, pour les autres viticulteurs, on presse, et c'est vendu directement au négoce. C'est des viticulteurs qui, mais on peut presser aussi pour un viticulteur qui voudrait ramener le jus chez lui, il n'y a pas de problème, quoi. On est complètement dépendant, on ne travaille pas avec de maisons de négoce particulières. On est complètement dépendant, on peut travailler avec tout le monde, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, on n'a pas de barrière. Parce que c'est vrai que quand on a monté le pressoir, on a des maisons de négoce qui nous avaient proposé de participer à l'investissement, mais en contrepartie, il fallait signer des contrats à très long terme chez eux, quoi. Alors moi, ça, on était un peu ficelé après. Moi, ça me, j'ai préféré prendre l'investissement tout seul. Et puis, je dis, on verra bien, quoi. Voilà. Puis bon, on a la chance, c'est vrai, en Champagne, dans une région où ça marche assez bien quand même. Et bon, bah, le négoce sont toujours acheteurs de raisins, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de souci. On n'a pas vraiment le souci à se dire qu'est-ce qu'on va faire de notre vendange cette année, comme dans d'autres régions viticoles, quoi. C'est vrai qu'ils ont d'autres soucis. Nous, notre gros souci, c'est l'achat du foncier, quoi. Voilà, on a chacun ses soucis. Mais nous, c'est quand il y a un hectare, un propriétaire qui vend un hectare de vigne ou des choses comme ça. C'est vrai que là, c'est les soucis qu'on a. Mais sinon, niveau pour écouler notre production, notre vendange, on n'a pas trop de problèmes, quoi. Ça,
Il
c'est cool.
reste peu de bouteilles à la fin de l'année.
Il reste peu de bouteilles à la fin de l'année. Bah oui, on voudrait bien en garder un peu plus, mais bon, on ne peut pas en garder plus non plus parce que bon, on a toujours nos investissements. Il faut qu'on en vende une partie. Ce qu'on vend au négoce, ça rentre tout de suite. Et voilà quoi. C'est parce que les bouteilles qu'on garde, bon, il faut un roulement de 3 ans. C'est pour ça que c'est très long aussi à monter un stock de bouteilles. Nous, on est seulement la deuxième génération. C'est ce que je dis. Bon, on voit sur la Marne, tout ça, Épernay, il y en a, ils sont là depuis 5-6 générations. Bon, ça, c'est différent, quoi. Des fois, on rencontre d'autres viticulteurs sur des salons. Ah ben, ils nous disent, les Champenois, vous n'êtes pas tous pareils. Hein, parce que, mais bon, c'est vrai que ceux qui sont installés aujourd'hui depuis 5-6 générations, c'est autre chose que nous. Nous, on est encore dans la grande période d'investissement, quoi. Voilà.
Cette ambition, ça vous a donné envie de faire votre champagne, mais il y a un moment, il a fallu aussi, c'est une source d'excitation aussi, bah, faire sa marque.
Oui, faire sa marque, oui. Eh bien, ça s'est fait un petit peu tout naturellement. Au début, ça a été un peu bon, les amis, des amis. Et puis après, assez vite, on s'est mis quand même à bouger pas mal, faire des salons pour se faire connaître. Parce que bon, si on reste, bon, Villeneuve-la-Grande, c'est bien, mais on n'est pas vraiment en plein cœur de la Champagne. Si on veut trouver de la nouvelle clientèle, ça a été à nous de se déplacer, quoi. Alors, on a fait beaucoup de salons. On a fait la Belgique, Luxembourg, et puis toute la France, hein, du sud au nord, hein, de Marseille à Lille. Et puis, on était à Tours la semaine dernière. On repart en Belgique au mois de septembre. On a fait un petit peu. Et puis, bon, on a de la clientèle qui a grossi comme ça. Et puis, bon, on a commencé à présenter les vins seulement l'année dernière dans quelques guides. Et bon, on a été, à notre grande surprise, on a été sélectionné sur le guide Hachette, concours de Féminine Analyse, on a eu des médailles. Alors bon, c'est vrai que ça a reboosté peut-être un petit peu aussi les ventes. Et puis, les ventes augmentent. Nous, cette année, ils ont encore bon, pas mal progressé, quoi. Par rapport à la totalité Champagne, c'est plutôt un petit peu en baisse. Alors que nous, pour l'instant, bon, on fait 20-25 000 bouteilles, c'est petit hein, encore. Et on arrive encore à progresser en faisant beaucoup de marchés français. On n'est encore pas. On a une fille qui travaille sur Épernay dans une maison de champagne et qui reviendra sûrement sur l'exploitation pour développer la partie export. Parce que ça m'intéresserait de faire aussi un peu plus de bouteilles et puis pour valoriser les bouteilles. Et puis à l'export, il y a encore beaucoup de choses à faire. Hein. Alors, Chine, Japon, on a quelques petites accroches sur le Japon, il y a les États-Unis, bon, l'Angleterre hein, qui est pas loin, et puis l'Angleterre qui est toujours le premier marché français, le premier marché importateur de champagne, quoi, largement encore devant les États-Unis. On disait que les États-Unis allaient rattraper l'Angleterre, mais c'est encore l'Angleterre est encore, alors que l'Angleterre est pas loin, mais bon, il y a la barrière de la langue, et voilà quoi, ça c'est notre fille plutôt qui fera ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, bon, on a encore. Maintenant, on a la capacité, on a les vignes, on a racheté aussi des vignes qu'on a des propriétaires. On a les vignes, on a la cave, on a la partie pour stocker, on a tout. Alors maintenant, il nous manque la personne pour développer la commercialisation. Mais ça, embaucher une personne, c'est pas tellement facile. Hein. Commercialisation, c'est plutôt. Ça, c'est assez familial, quoi. Parce que bon, c'est beaucoup d'heures à passer, c'est du temps, des week-ends, des choses comme ça et tout. Des fois, nous, on a fait des salons qui ont marché très bien, puis on en a fait d'autres qui ont marché moins bien, quoi. Alors, des fois, vous pouvez passer un week-end à vendre 50 bouteilles, vous avez déjà les frais de salon et tout. Si en plus, vous avez les frais d'une personne, il faut aussi gérer ses investissements, quoi. On peut pas. Voilà.
Sur la marque en elle-même, sur le logo, sur le
Oui.
nom.
Alors, bah, on a tout créé, hein, on a rien du tout. On a mis notre nom, hein, tout simplement, comme ça se fait beaucoup en Champagne. Hein. Nous, c'est le Champagne Frédéric Torchet, quoi. C'est souvent le nom du viticulteur. Et puis, bon, bah, on a fait la création avec ma femme, hein, celle qui s'occupait un petit peu de ça, un peu étiquette, tout ça. On a fait notre logo, on a fait. Et puis, bon, on essaye d'améliorer un peu tous les ans. Là, on vient tout juste de sortir une nouvelle bouteille avec un nouvel habillage. Et puis voilà quoi, on essaie toujours de rester à peu près dans le même esprit quoi. Et puis au fur et à mesure des critiques qu'on a un petit peu par rapport à d'autres personnes, on évolue aussi à ça. Des gens qui nous disent ah ben notre étiquette, ah ben on voit pas bien les écritures, c'est pas. Alors bon, on remodifie un petit peu, on essaye Là, en 10 ans de temps, on en est à, enfin, la troisième modification d'étiquette, quoi. En fond, c'est toujours à peu près la même base, mais bon, on change un petit peu, on écoute aussi un petit peu les avis des gens, on aime bien. Et puis, bon, on se plie un petit peu au marché aussi, quoi, hein, aux tendances, à tout ça, quoi. Mais on crée avec notre fabricant d'étiquettes, il nous donne un peu des idées, mais bon, c'est plutôt à soi-même de se faire son étiquette, parce que c'est vrai que là, on n'a pas toujours les mêmes. Des fois, on a suivi un petit peu les fabricants ou les concepteurs, mais bon, on se rend compte que des fois, c'est encore ce qu'on veut soi-même qui nous plaît le plus, quoi.
Vous restez très famille au niveau de la direction, au niveau de tout ça.
Oui, au niveau de tout, de l'exploitation, c'est moi qui gère beaucoup. J'attends un peu avec hâte que mon fils revienne sur l'exploitation pour s'occuper un peu de la partie vigne. Parce que là, actuellement, bon, vu qu'il est encore à l'école, c'est moi qui fais un peu la vigne, la cave, les expéditions, l'habillage. Là, bon, ça va que s'il refait un BTS en 2 ans, j'ai encore 2 ans, et après, ça sera bien déjà que je puisse lui déléguer un peu la partie au moins viticole. Et puis voilà, mais assez familial. Ouais, on est assez familial. Bon, on a un salarié, quoi, un salarié, un peu plus d'un salarié, quoi, mais qui travaille avec nous sur l'exploitation, un jeune qu'on a formé, qu'on a eu en apprentissage, et puis bon, qui est resté, qui a eu son bac lui l'année dernière, et puis qui travaille maintenant sur l'exploitation aussi, quoi. Voilà, mais si on gère, je gère, on gère tout assez famille, quoi.
Mais c'est quand même sous forme de société.
Oui, ouais, bah alors en société, bon, là c'est avec au niveau de la comptabilité, on a 2 sociétés même. On a une société, une ERL, Torchay, qui s'occupe, qui gère, enfin qui gère, qui a toute la partie vigne et tout, et on a recréé une SARL pour faire de la prestation de service. Que notre SARL, comme ça, presse pour l'ERL, et puis avec la SARL, on represse un peu pour les vignes, pour les autres. La SARL, c'est uniquement prestation de service.
Donc, il n'y a pas de salarié, au niveau de la famille, il n'y a pas de
Non,
salarié.
non, non, SARL, moi je suis tout seul, et ERL, je suis avec ma femme. Voilà, on est tous les deux à 50%, quoi. Et moi, ma femme est associée non exploitante. Je suis le seul, je suis gérant exploitant.
Et votre fils alors?
Et le fils, on va y retransmettre des vignes. Et lui, il aura une
Sa
exploitation.
société.
Pas sa société, il sera en exploitation individuelle au départ, comme il n'aura pas beaucoup de vignes. Après, il reverra. Bon, après, ça, c'est beaucoup au niveau juridique, quoi, pour les sociétés, au niveau fiscal, au niveau. Voilà. Mais au début, il va commencer en individuel. Hein. Il aura son nom. Et lui, bon, il livrera. Il va peut-être pas commencer à faire des bouteilles tout de suite, quoi. Il verra plus tard pour faire des bouteilles, sûrement, quoi.
Et votre fille pourra rejoindre la société.
Alors, la fille, on verra avec son frère. Mais bon, après, frères et sœurs, bon, ça peut marcher, on verra. Nous, tant qu'on sera là, si on développe la partie commerciale, peut-être l'embaucher sur l'ERL en tant que commercial, et puis avoir des parts, peut-être lui remettre un peu quelque part, mais qu'elle soit indépendante de son frère aussi, hein. Enfin bon, ça c'est chacun son. Mais moi j'aime bien que tout le monde ait sa part, mais pas tous ensemble, quoi. Je préfère avoir chacun sa part, mais après c'est compliqué. Des fois c'est là que des fois que ça crée des problèmes. Au niveau des investissements, on n'est pas toujours prêt à investir au même moment. Après il y a beaucoup de choses, ça complique, quoi. On verra si notre fille revient, si on développe beaucoup au niveau. Après, si elle peut travailler avec son frère, il faudra voir si elle peut travailler, s'occuper des expéditions. Après, c'est eux qui s'occuperont de ça, quoi. Ça sera à eux de gérer les ventes par la suite, quoi. Voilà, le fils. Il va continuer un peu. Hein, tu vas venir passer l'interrogatoire?
C'est pas l'interrogatoire.
Non, 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 ça va, non, non.
Par rapport à ce qu'a vécu votre père,
Ouais.
donc dans ce qu'il a fait au niveau du champagne, est-ce que
Ouais.
vous avez avancé,
Ouais.
vous me dites au début on a dû emprunter énormément, et vous me dites que quelques années après on avait déjà de l'argent de côté. Ça veut dire que ça a été quand
Ah
même
ben
très.
en 85, moi j'ai de 85, j'ai fait mon bâtiment qu'en 2001. Alors 85, oui, c'est en 15 ans de temps, quoi. Mais bon, encore, on n'avait mis qu'une petite partie de l'argent pour faire. On avait mis assez pour pouvoir emprunter, pour pouvoir faire nos CAF, quoi. Mais c'était pas la totalité, quoi. Mais de 85, où j'ai commencé à 50 ans, et puis moi je suis monté assez vite à 3 hectares et demi, 4 hectares, hein, ce qu'on a racheté sur les Riceys. Mon père m'en a reloué entre-temps. En 2000, quand on a monté le pressoir, on passait les 5 hectares, quoi. On avait un peu plus de 5 hectares à l'époque. Et ouais, la progression de la vigne, bah, évidemment, avec mon père, moi qui en reprenais un petit peu d'un côté, mon père qui m'en recédait de l'autre. À chaque fois que j'en rachetais ou que j'en louais, mon père m'en recédait un petit peu. Alors ça m'a fait monter assez vite au niveau de la surface, quoi. C'est vrai que de 85 à 2000, en 15 ans, on est passé de 50 hectares à 5 hectares. Hein. Ça a été, mais bon, grâce à mon père, évidemment, qui était derrière. Et puis, ça nous a permis de mettre un petit peu d'argent de côté, mais pour avoir le droit d'emprunter, quoi. Comptez 20% d'apport et puis vous empruntez les 80%, quoi.
Est-ce que vous, par rapport aux générations, la génération de, enfin, votre père,
Ouais, ah bah
il
oui.
a dû
Ah bah oui, bah et
travailler, s'est
puis,
travaillé de 14, enfin, s'il y a eu
voilà.
de travaux, etc. Et puis, donc, ça doit
Voilà.
être évident. Pour vous, ça a été, vous avez connu la génération des deux, mais vos enfants n'ont pas connu ce que ça.
Ben non, 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 voilà, les enfants.
Ça
Ben,
vous.
ça, c'est vrai que des fois, ça angoisse un petit peu. On se dit, quand les enfants vont arriver, ils vont avoir tout vraiment d'installé, les vignes, les caves et puis tout. Parce que c'est vrai que nous, on est toujours dans des périodes d'investissement. Moi, je suis parti un peu le même principe que mon père, et de toujours un peu investir. On investit une grosse partie de nos bénéfices. Et bon, on essaye de retransmettre à nos enfants. Hein. Pour ça qu'on leur remet des vignes assez tôt. Et puis, au fils, bon, il va falloir qu'on y retrouve des vignes assez tôt pour qu'ils puissent passer justement une partie des bénéfices dans les investissements au lieu de les passer ailleurs. Ça, c'est un peu. On pourrait à l'heure actuelle, nous, pratiquement arrêter de travailler, prendre des salariés et puis partir en vacances. Mais bon, c'est un état d'esprit. Mon père a beaucoup travaillé pour avoir ce qu'il a eu. Moi, j'ai voulu continuer. Il m'a fait l'avantage, l'honneur, si on veut, d'être tout seul à reprendre l'exploitation. Moi, bon, j'ai voulu aussi. Mon père était très fier de ce qu'on a monté. Malheureusement, il est parti cette année, quoi. Mais il était fier de voir ce qu'on montait aussi. Et ça, moi, de faire plaisir à mon père, ça me faisait autant plaisir à moi que je le voyais que ça lui faisait plaisir aussi. Et puis à la famille, à tout ça. Il voyait quand il a commencé, hein, ouais, bah, tu parles, tu fais ça. Ça rapporte rien, tu arriveras jamais et tout. Et puis des fois, il disait, tiens, celui-là, il travaillait avec moi et tout. Aujourd'hui, il a rien. Et puis, nous, on a quand même quelque chose. Ouais, c'est un peu, c'est une fierté personnelle, sûrement aussi, quoi. Et puis, on essaye d'élever nos enfants. Nos enfants ont toujours travaillé. Nous, dès qu'ils ont eu fini l'école, on a nos deux grandes filles. Bon, elles travaillent. Il y en a une qui travaille dans la comptabilité sur Reims. Mais non, ils ont toujours été là, ils ont toujours eu l'habitude de nous voir travailler. Pour eux, c'était normal. Ils ont fait leurs études, ils ont arrêté, ils ont travaillé aussitôt. Même la deuxième, elle a fait des études aussi bah, dans la vente de vin. Elle avait fait une licence à Dijon en vente de vin spiritueux avec une spécialisation à l'export. On avait déjà un petit peu, moi j'avais déjà, alors on l'avait un peu aiguillée dans ça. Et puis bon, elle a eu fini l'école au mois de juin. Puis j'ai dit, bon, toi, si elle ne trouve pas de travail, moi elle va travailler avec nous et puis tout. Mais bon, elle a postulé à trois endroits, puis elle a été prise aussitôt, quoi. Alors, ils ont toujours eu dans l'habitude de travailler, de nous voir travailler. Et puis pour eux, que c'était normal de continuer de travailler. Et puis aujourd'hui, bon, c'est sûr qu'elle, par rapport aux nos emprunts. Mais nous, ce qui se passe, c'est qu'on a encore beaucoup d'emprunts à rembourser. Alors, elle ne voit pas, ça fait pas comme si on avait l'argent qui. Elle travaille pour des salaires, un salaire normal, quoi. Mais ils sont été habitués comme ça, quoi. On n'a jamais été, ils ont jamais été habitués trop dans le grand luxe. Et puis, ça les dérange pas, ils n'y pensent pas. Quand vous n'avez pas goûté encore, je pense, à avoir beaucoup d'argent et le dépenser autrement, bah, vous travaillez, puis c'est normal, hein, ça fait partie de. Puis moi, j'ai toujours vu mon père qui travaillait beaucoup, mes parents ont toujours. Ma mère qui a toujours travaillé aussi à la vigne, hein, qui s'occupait, qui faisait un peu des lapins au départ, du jardin, qui faisait un peu de tout pour y arriver, quoi. Alors, mais bon, après, moi, des fois, ça. Bon, je vois, moi, je m'occupe pas mal aussi des comptes, de tout ce qui est la comptabilité et puis d'investissement et tout. Quand je vois, c'est vrai que ce qu'on rembourse, bon, les emprunts, des fois, qui se terminent et puis tout, bon, c'est vrai que ça fait. Quand les enfants vont arriver, que tout sera fini de payer. C'est vrai que c'est. Mais on a encore beaucoup, on a encore la capacité de s'agrandir. Hein. On peut encore racheter. Alors, vous savez, vous rachetez 1 ou 2 hectares, et puis voilà, ça vous plombe pour quelques années. Après, on peut refaire quelques bâtiments, on peut encore agrandir au niveau de la cave, au niveau. On a toujours pas mal de projets, quoi. Il y a toujours pas mal de projets. Alors, on investit. Moi, je suis plus dans l'investissement, quoi. Voilà, j'espère que le fils qui va reprendre va continuer dans cette optique-là, quoi. C'est vrai que là, à l'heure actuelle, avec notre exploitation, le fils pourrait pratiquement arrêter de travailler et puis attendre la retraite tranquillement. Mais bon, j'espère. Et puis pour l'instant, il n'a pas du tout. Il n'est pas élevé comme ça, quoi. Alors bon.
Alors, il a d'autres ambitions?
Alors, ben non, non, ça y a toujours plu, la vigne. Hein. Ça y plaît. Même là, par contre, il aurait même bien. Il avait son bac professionnel, mais il aurait bien arrêté là pour tout de suite revenir retravailler sur l'exploitation. Lui, c'est ce qu'il attend, lui. Non, non, il adore ça, la vigne, les tracteurs, la cave. Bon, la vente, il est un petit peu moins en avant pour la vente. Mais non, non, la vigne, ça fait un peu comme moi, si vous voulez. Moi, je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Et puis, à 5 ans, 4 ans, je faisais déjà les vendanges. Et puis, dès que j'ai commencé à marcher, j'étais à la vigne. Et puis, non, j'ai eu la chance. Puis bon, on leur dit toujours aussi de s'intéresser. Après, il faut s'intéresser à ce qu'on fait aussi, quoi. Bon, il y a des périodes, des fois que c'est assez dur, qu'on ne fait pas des bonnes années, on a travaillé toute l'année. Voilà, mais il faut s'intéresser. L'année d'après, elle sera meilleure quand il y a une année moins bonne. Et puis, il faut s'intéresser à ce qu'on fait, quoi. Moi, je pars toujours dans l'optique de s'intéresser à ce qu'on fait. Alors, j'essaye d'intéresser mon fils à, quand il y a des réunions, on l'emmène, je l'emmène avec moi et tout. Et puis, ça y plaît, si, pour l'instant, il est dans la vigne. Il est dans la vigne. Voilà, nous on fait la viticulture raisonnée déjà depuis une vingtaine d'années. Voilà, parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand mon père a commencé, bon, il y avait le début des désherbants, des produits, des tout ça, et ils avaient eu tellement de mal à passer du temps à désherber dans les vignes et tout, qu'ils ont peut-être forcé un petit peu les doses, mais bon, ils avaient les commerciaux qui étaient derrière, ils disaient, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci et tout. Et puis bah moi déjà quand j'étais à l'école dans les 80, je suis rentré à Vise en 81. Bon, bah, c'est vrai qu'ils nous disaient, bon, on commençait déjà un tout petit peu à parler de l'environnement et tout, dire que les doses de désherbants qu'on mettait, c'était beaucoup trop important. Avec moitié moins de désherbants, on pouvait y arriver pareil. Puis aujourd'hui, ils nous disent même avec plus du tout de désherbants, on peut y arriver. Bon, ça, c'est le fils qui le fera par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période, il y a eu des abus. Hein. Dans les années 70, il y a eu énormément d'abus au niveau des produits. Et moi, quand en 80, j'étais à l'école, bon, bah, c'est vrai qu'ils nous l'ont déjà un peu expliqué et tout. Et j'ai voulu tout de suite, quand j'ai repris mes premières vignes, enfin en 90, 85, j'ai repris mes premières vignes, mais des années 90, j'ai commencé à faire la viticulture raisonnée. Tailler moins fort, apporter moins de fumure où il y en avait moins besoin. Depuis une dizaine d'années, on fait de l'enherbement. On enherbe les vignes. Voilà quoi, on a fait pas mal de choses comme ça quoi. Et ça c'est bien quoi. Après maintenant bon, on commence un petit peu à avoir du bio, mais sur la Champagne c'est encore un petit peu difficile. On a des densités de plantation qui sont très importantes. Des années sèches ça va très bien se passer, mais après des années qui vont être un peu moins bien, c'est moins évident quoi. Alors le fils lui est branché parce que maintenant à l'école il les pousse de plus en plus. Alors j'attends qu'il revienne sur l'exploitation et lui frappe peut-être une partie bio. Alors, moi je suis pas contre, au contraire, mais moi ça ramène un petit peu plus de travail quand même. Il hein. Faut savoir que c'est un peu plus de temps à passer. Et puis au niveau des quantités de raisins, bon, on peut avoir des récoltes un peu moins importantes. Alors bon, ça il faut être bien installé quoi. C'est un petit peu risqué quoi. Si comme nous bon, on n'est pas depuis 10 générations dans la vigne. On a besoin tous les ans pratiquement de notre vendange, quoi. On peut pas. Alors en bio, vous pouvez être pratiquement perdre 50% une année qui va pas bien se passer, perdre 50% de votre vendange. Bon, si vous êtes bien assis, il n'y a pas de souci. Mais quand vous avez des emprunts à rembourser, il faut être un peu plus méfiant, quoi. Voilà. Alors, mais le raisonner, moi je le fais depuis juillet une vingtaine d'années, ça marche très bien. Il n'y a pas de souci.
Pourquoi?
Hein. Pourquoi
Pourquoi faire du raisonnement?
du raisonné, bah, ça permet de mettre beaucoup moins de désherbants, de retrouver moins les désherbants, les molécules qu'on a dans les désherbants. On a commencé à en retrouver dans les nappes phréatiques et tout ça. Bon, je vais à pas mal de réunions, je fais partie de l'AVC, moi, de l'Association viticole champenoise. Je suis le correspondant sur la commune de Villeneuve. Et puis, bah, dans les réunions, justement, bon, bah, ils nous expliquent, ils nous le disent, ils nous le rabâchent un petit peu sans arrêt. Et c'est vrai qu'on peut, en mettant beaucoup moins de matière active, il y a des années où il fait sec, ça permet d'en retrouver beaucoup moins dans l'environnement, quoi. Au niveau des nappes phréatiques, on retrouve encore aujourd'hui des molécules qu'on a mis il y a 30 ans, quoi. Bon, aujourd'hui, nous, on est à moitié dose au niveau des désherbants. Tout ce qui est sur le rang, on désherbe plus. Et puis là, d'ici quelques années, on va même passer à plus désherber du tout. Hein. Je pense dès que le fils sera revenu sur l'exploitation, ne plus mettre de désherbant du tout sur l'exploitation, quoi. Mais on y va progressivement, quoi. On n'a pas plongé dedans à fond. Et au niveau des produits phytosanitaires, bah, c'est pareil. On a beaucoup réduit les doses de cuivre, de tout ça, qui sont très néfastes pour les sols. Si, bah, on est toujours attentif quand même à l'environnement. On travaille toute l'année dehors avec la plante et tout. C'est vrai qu'on essaye quand même d'y faire attention, de faire attention et on revoit aujourd'hui bah, des fleurs qu'on voyait plus au bout des vignes, on voit des choses comme ça, mais même dans les champs, on voit des bleuets, des coquelicots qu'on voyait avant, qu'on n'a plus vu pendant une période et c'est donc la nature reprend un peu ses droits. Et la vigne, c'est une plante assez coriace de toute façon. Hein. La vigne d'elle-même, de toute façon, elle a déjà ses racines qui descendent très profond en terre et puis c'est une plante assez résistante, quoi. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une période d'abus, bon, maintenant on est dans une période où il faut. On sait qu'on peut, puis on a du matériel pour travailler aussi mieux qu'avant au niveau de la pulvérisation, qui permet de mettre aussi moins de produits phyto, quoi.
Et sur le parcours au territoire, vous êtes quand même un peu enclavé par rapport au reste du vignoble.
Alors, du vignoble. Alors, nous, bah, on nous appelle toujours on est les Aubois du Nord. Ou alors, parce qu'on est carrément les Aubois le plus au nord du département de l'Aube, quoi. Et on est tout à fait au sud. Alors moi, je me dis, on est au sud, nous, on est les Sud-Marnais, quoi. Mais on est entre le nord Aubois et le Sud-Marnais, quoi. Voilà. Mais Villenauxe, ben, on est enclavé. Villenauxe, on est la première commune en venant de Paris, si vous voulez. On est la première commune viticole à Champagne. Il y en a même qui sont étonnés, une fois qu'il y a des vignes aussi près, on est à 20 km de Provins, et qu'il y a les premières vignes à 20 km de Provins. Mais après, de Villenauxe, vous remontez pratiquement jusqu'à Épernay par les vignes. Par contre, on est par rapport au vignoble de Montgueux ou de la Côte des Bars, là c'est vrai qu'il y a des trous, il y a des périodes sans vignes. On va de Villenauxe à Montgueux sans vignes. Après, vous avez la butte de Montgueux, et de Montgueux, vous repartez sur la Côte des Bars, pareil, vous avez toute une période sans vignes. Par rapport au vignoble de l'Aube, c'est vrai qu'il est en trois. Enfin, une grosse partie, hein, la Côte des Bars. Il y a le vignoble de Montgueux où il y a un peu plus de 200-280 hectares, et puis Villenauxe où il y a un peu plus de 100 hectares. Mais Villenauxe, on touche tout de suite à Mongenod, Beton, après vous remontez La Selle, Fontaine-Denis, Cézanne, tout ça par les vignes. Puis après Cézanne, Broye, vous allez pratiquement, nous de Vinaux, on va pratiquement à Épernay à travers les vignes. On peut.
La Marne ou les Marnais.
Oh, c'est bien, hein. Y a pas, nous, il n'y a pas trop de soucis, ni avec les Marnais, ni avec les Aubois. Hein. Ça c'était. Bon, mon fils, toujours à l'école, parce que nous, on est quand même dans le 10, hein. On est dans le Cézanais, mais on est dans le 10. Alors, c'est vrai qu'à l'école, c'est toujours un peu les. Ça, mais bon, c'est pas trop méchant, quoi. Moins, il y a eu une période, bah, c'est sûr, il y a eu une grosse période où il y a eu une manifestation quand la Marne avait retiré l'appellation Champagne à l'eau. Bon, bah là, c'est sûr que ça a mis un peu de l'huile sur le feu, tout ça. Mais non, maintenant, non, ça se passe assez bien, il n'y a pas de
Vous avez
souci.
jamais connu.
Non, moi, la rivalité entre les vignerons de l'Aube et de la Marne, non, franchement, plus bon quand on en parle comme ça que d'autres viticulteurs, c'est plus en blaguant qu'autre chose, quoi. Mais non, il n'y a jamais eu de grosse rivalité. Et puis aujourd'hui, c'est tout est. Vous avez des vignerons de l'Aube qui ont un petit peu de vignes dans la Marne, mais bon, vous avez la grande majorité des vignerons de la Marne qui ont des vignes dans l'Aube. Quand vous êtes sur le vignoble des Riceys ou des Soies, bah, vous apercevez qu'il y a des coteaux entiers, c'est des Marnais, hein, qui sont là. Alors bon, non, les raisins, puis le champagne, il y a un vin d'assemblage. Hein. D'assemblage de cépages et de régions. Hein. Alors, vous pouvez faire un champagne avec du raisin de l'Aisne, assemblé à du raisin de l'Aube et du raisin de la Marne. Hein. Et souvent, toutes les grandes marques, les grandes maisons, de toute façon, ça provisionne dans les 5 départements de la Champagne. Vous pouvez retrouver dans la même bouteille du champagne, du raisin des 5 départements. Hein. Voilà. Et non, moi, ça n'a jamais trop posé de problème. Et puis, même quand on est arrivé dans l'Aube, on me disait ça, bah les vignerons de la Marne, ils sont pas bien vus là-bas et tout. Mais moi, j'ai jamais eu de soucis. Partout où on s'est installé, on n'a jamais eu de soucis.
Vous avez commencé pas dans l'Aube.
Ben, on a commencé sur Villenauxe. Villenauxe, nous, en 85.
Et avant?
Ah ben, avant 85, comment ça?
En 85, en 85, vous aviez 18 ans.
Ouais, j'avais 18 ans, j'avais
Vous
aimé
avez
ça.
commencé un peu avant, non?
Ah
Vous
ben.
voyez avec
Ah
non?
ben comme quand j'étais à l'école, je faisais des stages aussi. Ouais, j'ai commencé en 81. J'ai commencé en 81. J'avais 14 ans et demi, 15 ans, quand j'allais déjà un peu dans les fermes. L'été à la moisson. Et puis quand j'avais des stages, bon bah je faisais mes stages. Ouais, j'ai commencé. Je suis rentré à Vise en 81. De 81 à 86. J'ai eu fini l'école en juillet 86. Et là, je travaillais en stage, quoi. Je travaillais pas tout le temps, quoi. Alors, bon, on s'est rencontrés sur une petite fête de village. Hein, on s'est rencontrés de bonne heure. Nous, on était jeunes en 83. Hein. On s'est rencontrés en 83. On est notre première fille en 85. Voilà. Et sur une petite fête de village à côté du Plessis. Hein. Et puis, voilà. Puis depuis 83, ça va faire pas loin de 30 ans. Hein. Enfin, ça va faire 30 ans. Et voilà. Et puis, bon, bah, ça, on a eu nos enfants après dans la continuité. Après, on a eu la première fille. On a fini l'école. On a commencé à avoir des vignes. Après, on s'est marié, on a eu une deuxième fille. On n'a pas tout fait dans l'ordre, mais bon, on a fait comme. Et puis voilà quoi. Ma femme n'était pas d'un milieu viticole non plus. Ses parents étaient ouvriers viticoles. Ils travaillaient pour un vigneron bah, de la Marne, mais en vigne en tant que tâcheron quoi. Voilà. Alors, elle connaissait déjà un petit peu la vigne, mais bon, elle y allait pas. Et puis voilà quoi. Puis après, elle a travaillé un petit peu ailleurs. Et puis elle est très vite revenue me rejoindre sur l'exploitation, quoi. Comme après, moi j'avais repris un peu de vignes en tâche, j'en avais pris un peu plus que ce que je pouvais faire. Alors elle est vite revenue me joindre, et puis on a travaillé ensemble, puis on a toujours travaillé ensemble depuis 90. Voilà.
Et vos engagements, ils datent de quand?
Alors nos engagements.
Enfin, vos engagements par rapport au
Ouais.
syndicat, à la.
Ah ben depuis moi toujours j'ai suivi un peu le pas de mon père, hein. J'ai toujours été derrière lui. Mon père s'occupait même de plus de choses que moi. Mon père il était plus impliqué encore. Il était maire adjoint aussi. Il était conseiller, il était maire adjoint, il était président de plein de choses, de la confrérie de Saint-Vincent. Il s'occupait au niveau des écoles, au niveau. Mon père a toujours été impliqué dans pas mal de choses. Moi un peu moins à ce niveau-là, j'étais un peu moins. J'ai repris juste l'AVC quoi. Il était aussi correspondant de l'AVC.
Il était tout seul.
Et il était tout seul. Bah, au début, ouais, il était président. Non, il était à la section locale. Il était vice-président de la section locale. C'est vrai qu'au début, il n'y en avait pas beaucoup. Il était à la coopérative. Il était vice-président de la coopérative aussi. Il s'occupait de pas mal de choses associatives et puis tout, quoi. Mais moi, un petit peu moins, j'avais un petit peu moins le temps, puis ça me passionnait un petit peu moins, peut-être ça. J'étais plus, moi, si on veut, enfin, pas personnel, mais moi, j'étais plus basé sur monter ma cave, et puis tout ça, j'avais plus cet objectif-là. Alors, même à la coopérative, ils m'avaient demandé pour rentrer au conseil d'administration et tout, mais moi, bon, je dis, je vais pas me mettre au conseil d'administration pour quitter 2 ans après ou 3 ans après, et j'avais plus pour objectif de monter ma cave. Alors, soit que je travaillais un peu plutôt à droite, à gauche, pour gagner un peu d'argent, pour. Tout ça quoi. Mais après ouais l'AVC ça m'a toujours bien plu parce que l'AVC c'est vraiment une association où ils parlent vraiment des problèmes de la vigne, tout ça, les maladies, ce qu'on peut faire pour améliorer, tout ça quoi. Mais sinon les autres engagements, non, j'ai été un petit peu conseiller municipal chez nous, mais non voilà, j'ai pas eu trop d'autres engagements comme ça quoi.
À quoi l'ABC?
L'AVC, ben, a rapporté justement tous les problèmes qu'il y a au niveau de la commune de Villeneuve. Si on a des problèmes de grêle, d'érosion dans les vignes, de maladies qui se déclarent, comme là, bon, là, on est en train de regarder au niveau de l'oïdium. On a une maladie qui risque, avec les chaleurs qu'on a, le froid, il fait encore assez frais la nuit. Tout ça, quoi. Ça sert à remonter toutes ces informations-là au CIVC. Et eux, bah de voir justement, eux, ils font toujours, bon, ils ont des laboratoires et puis tout aussi, ils font beaucoup d'analyses pour voir ce qu'on peut faire comme traitement en mieux, enfin moins traité, que ça soit plus efficace. On fait de la confusion sexuelle au niveau, bah ça rentre dans la viticulture raisonnée, hein, au niveau des vers de la grappe et puis tout ça. Eux, ils essayent toujours de nous trouver des choses, des solutions, quoi, des solutions adaptées. Et c'est à nous, en tant sur chaque commune, vous avez un correspondant sur chaque commune, et dès qu'il y a un problème sur la commune, de maladie ou d'orage de grêle, des choses comme ça, de remonter l'information tout de suite au CIVC. Savoir sur la commune de Vinaux, bon, on sait, il y a 100 hectares de vignes, s'il y a de la grêle, s'il y a 50 hectares de grêlés à 100%, bon, bah, tout de suite, moi, je les appelle, je leur dis, bon, bah, là, on a eu un orage de grêle tel jour, il y a à peu près 50 hectares de grêlés. Eux, sur toutes les communes, vous avez un correspondant comme ça qui leur retransmet les informations. Et eux, ça leur permet à la vendange bah, de savoir, bah, tenez, cette année, il y a 400, 300, 400 hectares de grêlés dans ce côté-là. Il y a eu un peu de gel de ce côté-là. Il y a un peu. Ça leur permet d'avoir les informations tout de suite, quoi. D'avoir une personne sur chaque commune tout de suite qui leur remonte les informations. Et puis, bon, bah, ils font des réunions hein, régulièrement. J'en avais une hier à Épernay. On en a une demain à Sézanne. Justement pour savoir, là j'ai été faire un comptage de grappes ce matin. On compte 3 séries de 10 pieds pour compter le nombre de grappes, savoir à la vendange à peu près combien de raisins il peut y avoir. Bon, à cette époque-ci, on le fait en sachant très bien qu'il peut y avoir un orage dans 15 jours ou dans 3 semaines. Mais on sait qu'à tel moment, il y a tel potentiel de récolte. Voilà, ça donne pas la récolte qu'il y aura à la vendange, ça peut évoluer. Mais voilà quoi, ça leur permet d'être toujours de savoir tout sur toute la Champagne, quoi.
Et depuis le moment où vous avez commencé, est-ce que vous avez replanté les nouveaux cépages,
Oui.
vous avez
Bah surtout au niveau.
greffé, vous avez comment ça
Voilà,
se
voilà. Alors là, bah justement, on s'est servi bah, des choses qui avaient été faites avant, alors des erreurs, et puis des choses bien, quoi, pour bah, justement refaire que des choses bien. Mon père savait pas trop déplaire. Pareil, au niveau des porte-greffes, il avait planté un peu de 3000, du 3309, il avait planté du SO4 et du 41B. Et puis bon, bah moi, ça m'a permis de voir que ce qu'il faut planter ici, c'est que du 41B, quoi. Alors bon, on a arraché les vignes qu'il avait en 3000, le SO4 aussi, les noirs, quand les vignes bon, bah, arrivent en fin de vie, de savoir. Comme ça, mon père a fait un petit peu beaucoup de tests pour moi. Pour moi, ça a déjà été pas mal. Quand je suis arrivé, j'ai vu tout ce qu'il fallait pas faire. Au niveau des installations, les fils fixes, après, il y a eu les fils releveurs. Au départ, ça se faisait pas les fils releveurs, c'est pour au moment du relevage. Avant, on avait des fils fixes, on passait beaucoup plus de temps à palisser. Bon, après, ils ont commencé à faire les releveurs. Bon, il a vu que c'était bien, donc moi, après, tout ce que j'ai réinstallé, automatiquement, je le faisais en releveur. Ça a été on n'était pas toujours d'accord sur toute la façon de faire la vigne, mais moi je me suis servi de pas mal de choses quand même. Enfin, puis lui, il le disait, il disait, tiens, bah ouais, là les 3000, on voyait bien tous les ans, il n'y avait pas de raisin dessus, le O4 c'était trop hâtif, c'était pas les cépages qui étaient adaptés à la région, quoi. Et ça m'a permis, bah, justement de devoir et puis de pouvoir refaire les vignes après. Mais bon, c'est assez long aussi. Quand on arrache une vigne, c'est pas, ou quand on la replante, c'est pas pour une année, quoi. Ça reste maintenant, les vignes, ils font 40 ans, quoi. Ils peuvent faire 40, 50 ans, quoi. Alors nous, on en arrache un petit peu au niveau du matériel pour pouvoir justement les refaire à l'enjambeur. On avait des vignes avant qu'on faisait traiter par voie aérienne, hélicoptère, mais bon, maintenant c'est interdit. Alors bon, on a refait des vignes. Moi, je m'y étais déjà pris. Ben justement, c'est un petit peu en étant à l'AVC, je savais que l'hélicoptère, de toute façon, ça allait pas durer éternellement. Donc moi, ça fait déjà 15 ans que j'avais anticipé que j'ai pas eu tout à arracher mes vignes en même temps, toutes celles qu'on pouvait pas faire à l'enjambeur. Et depuis déjà 15 ans, j'avais commencé à arracher les parcelles qu'on pouvait pas faire pour refaire les terrassements, pour replanter les vignes. Et puis, ben, quand l'hélicoptère a été interdit, ben, à partir de l'année dernière, moi, j'avais plus de vignes qu'on traitait à l'hélicoptère. J'avais réussi à tout remettre. J'avais déjà tout aménagé, j'avais anticipé avant, et ça m'a permis d'avoir tout. Ça, c'est un petit peu grâce à l'AVC aussi. Hein. Il nous le disait, hein, l'hélicoptère, c'est pas que c'était des mauvais traitements, mais c'était au niveau de l'image de marque de la Champagne, c'était pas bien. Puis il y avait toujours des gens qui se plaignaient de plus en plus, des associations et tout ça. Et bon, du coup, l'hélicoptère a fini par être arrêté, quoi. Et nous, bon, on le savait déjà depuis 15 ans, quoi. On le disait à certaines personnes, bah, mais bon, les gens, bon, non, non, ça marche bien comme ça et tout. Mais ça permet d'être un petit peu au courant avant les gens, quoi. L'hélicoptère, bah si, moi, ça fait déjà 5 ans que je faisais plus du tout de traitement hélicoptère. J'avais plus qu'une petite vigne qu'on fait toujours, mais qu'on fait au chenillard, quoi. Et j'ai arrêté, moi, depuis 5 ans, on faisait plus aucune vigne à l'hélicoptère déjà. Oui, bah oui, bon, bah oui, de toute façon, c'était obligatoire. Hein. Vous avez un cahier des charges aussi à suivre, hein, pour la plantation de la vigne. Les distances entre plants, entre rangs, la taille, tout ça, vous avez un cahier des charges qui est assez strict. Enfin, puis c'est bien. Et il était déjà planté, mais bon, lui, c'est pas au début, il avait son motoculteur. Alors, il y a des vignes, bon, bah, il plantait même s'il y avait un peu de dévers. Puis s'il avait 1 mètre de fourrière, il en avait assez. Hein. Il pensait pas, il. Les premières vignes qu'il a plantées en 66, il ne pensait jamais qu'il achèterait un enjambeur. Hein. Bon, aujourd'hui, on en a 3, mais voilà quoi. Alors, il faisait pour son motoculteur. Au début, il binait même les jeunes plants, il n'avait même pas de désherbant, il passait la bineuse. Et puis, voilà quoi, ça s'est fait comme ça. Et puis, du coup, il a pas. Il avait fait des vignes qui n'étaient pas praticables. Alors, après, comme ben, c'est lui qui s'occupait aussi de l'hélicoptère, c'était lui le responsable des traitements aériens sur Villeneuve. Alors, bah, c'est vrai que comme il était un des premiers à avoir des vignes, enfin il était le premier à avoir des vignes sur Villeneuve, hein, qui s'est retrouvé un petit peu dans toutes les associations. Et puis bon, ça lui plaisait, il aimait rencontrer du monde, il aimait discuter, puis il aimait apprendre. Hein, il a toujours aimé bien apprendre plein de choses, et ça lui permettait, bah, de rencontrer des personnes, d'apprendre sur la vigne. Lui, il arrivait sur la vigne, il n'y connaissait absolument rien, hein, et il était toujours curieux, il était toujours, il aimait apprendre, quoi. Villeneuve, ça va. On a eu des années, on a eu des années de gel, mais on n'est pas trop un secteur gélif. Hein. On a eu en 2003, on a eu une grosse gelée, mais bon, un peu comme toute la Champagne. Hein, nous, on était assez marqués. Mais dans la moyenne, ça va. Non, Villeneuve, on n'est pas trop un secteur ni gélif ni à grêle. Hein. Puis maintenant, bon, on a la réserve individuelle aussi, hein, qui se fait. C'est une vendange qu'on a pratiquement d'avance. Hein. Tous les années qualitatives, on peut mettre une petite partie de côté. Pour une année, justement, si on gèle ou si on grêle ou s'il y a une catastrophe climatique, on peut ressortir des raisins. Alors, oui, ça c'est aussi pour le. Oui, voilà, ça marche aussi pour le bio, ça marche pour toute l'appellation, ça. Voilà, ça, c'est ce qui peut pousser un peu pour le bio, justement, à avoir une réserve quand même d'avance. Mais quand on rentre dans le bio, bon, il faut arriver à se la constituer quand même, quoi. Mais ça, c'est bien pour ça aussi, quoi. Voilà, c'est pour ça que le bio, bon, je pense qu'on finira. On était chez des amis en Touraine là, ce mois-ci. Bon, eux viennent de passer en bio aussi. Là-bas, c'est vrai que ça se développe beaucoup, quoi. Hein. Sur Bourgueil, tout ça, ils ont déjà. Sur Bourgueil, ils me disaient, ils ont 30% de l'appellation qui est déjà en bio, quoi. Ça fait un tiers du vignoble. Enfin, du vignoble de Bourgueil, qui est un petit vignoble quand même. Mais voilà, quoi. Ouais, si, nous, on y passera sûrement. Hein, ça, c'est. Et puis, il va y avoir encore des évolutions au niveau des appareils de traitement, au niveau des produits qui sont moins nocifs et plus efficaces. Tout ça, il y a toujours du progrès de fait. Je pense que si, ça c'est des choses d'avenir, ça.
Et votre meilleure année, ça a été quoi pour l'instant depuis votre début?
Alors, meilleure année en qualité, on fait des assez bons. On a eu 2005 qui a été bien, en 2004 bien en quantité, mais bon, qualité, c'était normal. On a eu 2005, on a eu en bonne année de qualité. On a depuis 2012, là, c'était bien aussi. Ça va, nous ici, vu qu'on n'a pas trop de gel, de grêle, on arrive tous les ans à. C'est même pour ça qu'on a fait bon l'enherbement. On réduit au niveau de la taille, ça nous permet même de produire un petit peu moins, mais bon, on a toujours assez et d'avoir des belles années qui se suivent quand même. On a eu des années un peu moins bien. 2001, c'était pas, si on veut, la moins bonne année des dernières années, il y a eu 2001. 2001, ça n'a pas été sensationnel. Il y a eu de la pluie, on avait mangé tard, pas trop de degrés. 2001, ça a été assez dur. Mais depuis, on a fait de belles années. Ouais. Voilà. Ouais.
On a fait
Un peu le tour.
un peu le
Ouais.
tour.